When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ouvrez grand vos oreilles. Vous écoutez un balado Urbania.
Si vous voyez combien le policier demande à être formé, à être outillé, j'en connais pas un qui se réveille un matin et dit « Aujourd'hui, ça me tente d'en tirer un ».
Il existe peu de chiffres officiels, mais selon plusieurs organismes sur le terrain, il y a des règlements municipaux qui sont appliqués de manière discriminatoire, ce qui fait en sorte que certaines personnes en situation d'itinérance ou avec des troubles de santé mentale se ramassent avec des tickets qu'elles ne seront jamais capables de payer. Est-ce qu'il y aurait moyen de former des policiers plus empathiques? C'est ce dont on va discuter avec Bernard Saint-Jacques, directeur général de la clinique Droit Devant, et avec Fadi Daguerre, directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil. On va commencer direct dans le sujet. C'est quoi un bon policier en 2019, selon vous?
Présentement, on voit encore que dans la culture policière, on est très branché, orienté vers la technique. Mais ça demande une adaptation de la culture policière, mais de manière drastique. Parce qu'on est dans les années de lumière par rapport aux besoins que la population demande sur le terrain de la part des policiers. Sur les 100 % d'appels que nous recevons, 70 % ont toute connotation à détresse humaine, détresse psychologique, chicane de voisinage. Ça, là, ça ne me demande pas un policier hyper technique ou hyper combattant du crime. C'est une évidence, on doit se rendre ailleurs.
On va voir comment s'y rendre. Mm-hmm. Mais d'abord, Bernard, un bon policier?
Bien, pour moi, qui intervient davantage dans l'itinérance, avec les personnes en situation d'itinérance sur le terrain, c'est difficile de voir la posture uniquement d'un policier. Donc, toute la question des tensions qui peuvent exister dans l'espace public, de la cohabitation sociale, où là, il y a plusieurs facteurs qui jouent là-dessus, des facteurs sociaux plus larges, des enjeux d'aménagement urbain, toutes sortes de choses. Donc, des choses qui dépassent l'itinérant et le policier. Donc, il y a ça. Il y a l'institution policière elle-même qui a une habitude qui est très conservatrice, qui a un modèle spécifique de sécurité publique. Et il y a le policier qui, malgré tout le cadre qui lui est donné, a une autonomie d'action comme personne qui peut, et qui c'est là où on va aller voir le niveau d'empathie. Mais pour moi, on ne peut pas juger juste l'empathie sur la seule personne du policier.
L'empathie, par définition, c'est la capacité à voir les choses du point de vue de l'autre ou à s'imaginer dans la même situation qu'elle. Si on prend ça en compte, est-ce qu'il y a des clientèles qui nécessitent plus d'empathie que d'autres?
Oh, bonne question. Honnêtement?
Oui.
Non. Non. Pour moi, je vois... Quand on intervient comme policier, vous serez surpris de voir dans les maisons cossues dans lesquelles on intervient, dans les familles très aisées ou très pauvres, si vous voyez la détresse humaine sur laquelle on fait face, je peux pas dire à mes policiers cette clientèle est plus vulnérable que l'autre. Oui, il y en a des clientèles qui sont de manière plus fréquente vulnérables qu'on côtoie. Mais c'est surprenant de voir ce qu'on voit derrière les murs des maisons à l'intérieur. J'aimerais beaucoup plus que mes policiers aient des compétences génériques, interpersonnelles, émotionnelles, extrêmement aiguisées et qu'ils soient capables de s'adapter à toutes sortes de situations.
Parce qu'il y a quand même des populations, je crois, qui ont plus souvent affaire aux policiers. Bon, à la clinique Droit Devant, Bernard, vous accompagnez des personnes en situation d'itinérance. Vous les aidez notamment dans la gestion d'étiquettes qu'elles reçoivent. Est-ce qu'elles sont particulièrement visées?
Bien, je pense qu'elles le sont. Elles le sont aussi, comme dit M. Daguerre, parce qu'elles sont plus rencontrées dans l'espace public. Faut pas nier, elles font l'objet souvent de plaintes. Mm-hmm. Quand on parle de profilage social, bien, c'est aussi c'est de dire cette personne-là va potentiellement faire un acte qui va être délictueux. mais je vais le regarder sous uniquement l'angle de ce qu'elle a l'air. Mais on s'en le cache pas. C'est sûr que les policiers voient plus souvent des personnes itinérantes qu'ils voient vous et moi. Ou en tout cas, ils nous regardent pas, ils nous spotent pas, nous. Ça, c'est sûr.
Mais si moi, je m'étends sur un banc de parc, ça m'étonnerait beaucoup que quelqu'un me donne
effectivement,
une amende.
C'est ça. D'où l'idée du règlement qui peut être potentiellement discriminatoire, des fois dans son application, des fois même dans son propre libellé. Puis la question, c'est quoi l'intervention? Et là, c'est depuis des années, c'est le débat sur c'est quoi que j'ai dans mon carnet, ma trousse à outils. Ouais. Moi, je dois montrer que je fais une intervention, donc je dois donner un constat. Mais je vais quand même essayer d'avoir fait d'autres choses. Ou le constat, c'est, je ne vais pas donner le constat la première fois que je vais interagir avec la personne. Mais reste que vous allez réinteragir avec cette personne-là. Et on est encore là à l'idée que la remise de contravention est quand même quelque chose d'important. Puis je peux même comprendre un policier de dire, ça fait trois fois que tu fais l'objet d'une plainte, tu es devant moi, tu es dans le parc, tu es visible, tu bois, tu fais tel comportement qui a l'air de déranger les autres et tout ça. Fait que des fois, à un moment donné, je peux comprendre qu'il peut y avoir des limites. Une fois ça dit, est-ce que c'est le rôle de policier de faire le sociologue qui va rencontrer tout le monde puis faire de la sensibilisation? C'est peut-être pas ça, mais peut-être que ça prend d'autres acteurs ou d'autres choses.
Vous en pensez quoi, M. Daguerre? Est-ce que ça pourrait être le rôle du policier?
Mais moi, c'est un peu... Il y a une bonne partie de ce qu'il vient de dire, Bernard, qui c'est un peu de la musique à mes oreilles. Parce que c'est vrai, cette réponse-là du constat d'infraction... On va se dire les vraies choses, ça ne fonctionne pas. Mm-hmm. C'est justement ce que je suis en train de mettre en place avec mon équipe. Alors, ça s'appelle un stage d'immersion.
OK.
Donc, on sort les policiers, 20, 30 à la fois, de la patrouille. Tous sortent de la patrouille et ils s'en vont en immersion dans la communauté. Puis, immersion dans la communauté, c'est justement, je ne veux plus de formation en classe sur comment parler avec un itinérant, comment accoster quelqu'un qui a un problème d'autisme. Parler avec quelqu'un qui est en violence conjugale, qui est victime de violence conjugale. Aller vivre avec eux.
Littéralement?
Littéralement. Ils vont aller souper, manger, s'installer avec eux durant les journées au complet pendant 21 jours. Et ils vont vivre avec les familles et échanger avec eux qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien. Et même chose au niveau de l'itinérance, au niveau des abus sexuels des jeunes filles. Présentement, on est peut-être un des rares corps de police au Canada qui a mis une section en place, pas pour attraper uniquement les proxénètes, mais pour s'occuper de la jeune fille qui est victime d'exploitation sexuelle. On lui trouve un appartement, une job, un médecin, un psychologue. Puis porter plainte, pas porter plainte, c'est pas important.
Comment ont réagi les membres du corps policier à cette idée-là?
Écoutez, ça a lieu là. On commence. Donc, on va voir comment ils vont réagir.
Avec enthousiasme ou avec scepticisme?
Mais je vais y aller avec des volontaires au tout début pour voir un peu comment ça va se passer. Et même les évaluations de rendement des policiers. Ça, c'est un domaine qui m'importe énormément. Je suis en train de revoir tout le recrutement des policiers de Longueuil. Comment que les ressources humaines, on va les recruter, sur quelles valeurs, quels principes. On va mettre une vidéo promotionnelle et on va leur dire, vous venez pas dans un corps de police où vous allez vivre du 100% en criminalité. Si c'est ça, vous êtes intéressé à le faire, c'est peut-être ailleurs que vous devrez aller. Vous allez avoir 70% d'intervention sociale.
OK.
Alors, venez, engagez-vous plutôt dans ce domaine-là.
Mais je trouve que c'est une excellente idée. Je trouve que c'est fascinant, mais on en a parlé brièvement tantôt. Ça fait des années que les organismes demandent aux différents corps policiers de changer leur façon de travailler. Est-ce que les choses ont bougé depuis? Là, ça m'apparaît clair que vous essayez quelque chose. Mm-hmm. Mais depuis des années, là, quel chemin a été fait pour valoriser l'empathie chez les policiers? Mais
je ne peux plus compter sur 10, 15, 20 policiers hyper ambassadeurs avec une approche extrêmement exemplaire. Il faut que la masse change. Mais il faut aussi mes directives. Tantôt, il parlait de la structure, les directives qui arrivent, de certains règlements municipaux. Vous savez, combien d'années je demande au milieu politique, revoyez vos règlements municipaux. Ça met les policiers dans une situation extrêmement sensible. Oui, j'ai une logique, j'ai une réflexion à faire. Mais il est facile, c'est vrai. Une fois qu'on est un peu insécure, on est dans le gris, on n'est plus capable de savoir qu'est-ce qu'on fait, on sort le bouquin, le noir et blanc est là, ben je vais l'appliquer.
Mm-hmm. Puis Bernard, à votre avis, est-ce que les choses ont bougé?
Ben si on regarde, par exemple, sur les contraventions appliquées, il y a des motifs d'infraction qui apparaissent plus. Je pense à topper sa cendre de cigarette par terre, on le voit presque plus. Les enjeux liés plus à l'occupation du mobilier urbain dans les parcs et tout, c'était très employé au milieu des années 2000, ça l'est un petit peu moins. D'autres volets aussi, on a connu des périodes très sombres, entre autres avec des personnes en situation de crise qui sont tombées sous les balles des policiers. Je pense à Mario Hamel en 2011, à Farshad Mohammadi en 2012, même Alain Magloire en 2014. Ça, c'est sûr que ça a eu un effet de commotion au SPVM. Et je sais, moi, qu'il y a eu beaucoup de formations qui ont été faites au niveau des acteurs policiers en matière de santé mentale. Il y a eu des équipes spécialisées qui ont été créées. Puis ce qui est intéressant chez ces policiers-là, c'est qu'ils sont pas juste, ils ont pas juste des interpellations. Ils sont appelés quand on pense que quelqu'un est fou puis qu'il va commettre un délit, mais aussi pour, dans une perspective de sensibilisation des collègues sur « Wow, calme-toi dans ta... » Fait qu'il s'est fait des choses.
Pourquoi je garde un énorme espoir? Et je suis très sincère quand je le dis, le profil des policiers au Québec, il a vraiment des intentions d'aider et de protéger. Mm-hmm. Le problème, c'est qu'on ne lui en donne pas assez d'outils, on ne le supporte pas assez aux policiers. Et encore une fois, je m'adresse aux directions, parce que c'est à notre rôle, notre responsabilité morale d'outiller nos policiers à ce qui se passe en 2020, 2030, 2040. Mmh. J'ai observé ce qui se fait dans les cégeps de techniques policières, j'ai vu ce qui se fait à Nicolette, puis honnêtement, il y a une belle évolution.
Ouais.
Ça change, là, ça change bien. Mais il reste au corps de policiers aussi à continuer à changer. Il faut absolument contaminer, dans le bon sens du mot, la masse. Mmh. Parce que quand il y a des mouvements de personnel, il faut que cette masse-là soit contaminée, saisissent qu'est-ce qui se passe. Et non pas qu'on puisse compter sur 30, 40, 50 ambassadeurs, mais sur plutôt 200, 500, 600.
Mais c'est là la difficulté aussi. C'est que les attentes qu'on avait de ces équipes multidisciplinaires-là, l'approche plus socio-communautaire qui est développée aussi au SPVM, aurait un impact sur l'ensemble du corps. C'est pas, a priori, ce qu'on voit. Il y a aussi quelque chose, je pense, mais qui va toujours quand même rester de l'institution policière. Puis, tu sais, c'est le temps d'intervention avec une personne. Quand on arrive avec une intervention policière, vous êtes un citoyen, citoyenne, vous faites une plainte et tout ça, votre attente, c'est d'avoir une intervention directe. La police est habituée à une intervention directe. Et l'autre volet, que je trouve pas évident avec lequel composer, c'est que le policier intervient d'abord en matière de sécurité publique. Donc, si son objectif, c'est de dire, mais non, mais calmez-vous, tout va bien, cette personne-là, elle est calme pour l'instant, et s'il fait quelque chose le lendemain, mais c'est sûr que ça va peut-être retomber sur la tête des policiers. Ça, je suis capable de faire la part des choses, mais malgré ça, je pense tout de même qu'il faut vraiment qu'il y ait une transformation de notre société.
Si vous saviez le nombre d'appels qu'on reçoit au 911, qui sont profilés. Mm-hmm. Non, mais c'est hallucinant, c'est fou.
J'imagine que c'est vrai tant pour le profilage social que racial.
Mais tout à fait. Moi, parfois, je reçois des appels du style... Il y a des jeunes dans la rue, des gangs de rue en train de se battre. 4-5 noirs en train de se battre à coups de bâton. Puis ils arrivent, les policiers, puis c'est 4-5 noirs en train de jouer au hockey dans la rue.
Pour tous les enjeux que vous nommez, j'imagine qu'il y a un impact dès la formation. Est-ce qu'il y aurait une façon, quand on enseigne le métier de policier, policière aux élèves, de les rendre d'emblée plus empathiques?
Bien, il y aurait beaucoup de choses, je pense, à voir. Le problème, encore une fois, c'est que l'institution policière, elle n'est pas faite pour ça. Donc, je pense qu'une connaissance plus transversale de l'ensemble des phénomènes sociaux s'impose. Donc, pour montrer la pluralité des points de vue, la pluralité, et pas, c'est pas parce que j'ai des comportements qui sont différents, qui sont automatiquement délictueux ou dangereux ou un potentiel sécuritaire. Puis, il faut pas se le cacher. Le policier est formé d'une façon à être un peu à l'extérieur de la société, dans un corps, esprit, et se voit, puis ça, des recherches le disent très clairement, le policier se voit comme très extérieur. Ce qu'on me dit souvent au service de police, c'est... Bien, le policier, il est le miroir des préjugés de l'ensemble de la société. Peut-être, mais de la manière de le gérer, de le concevoir au quotidien avec ses partenaires, pas du tout. Au contraire, il y a la société, il y a le reste du monde, puis il y a moi.
J'écoute ce que Bernard dit et je reviens sur l'ADN du policier. Si vous voyez, durant les formations spécialisées en santé mentale, au niveau de l'itinérance, au niveau de la détresse humaine, en violence conjugale et l'exploitation sexuelle, si vous voyez combien le policier demande à être formé, à être outillé, j'en connais pas un qui se réveille un matin et dit « Aujourd'hui, ça me tente d'en tirer un ». Si il se fie à l'intervention typique policière répressive, je suis tout à fait d'accord avec toi, on est complètement dans le champ. Sachant très bien que la réponse est plus sociale, comment il peut s'outiller lui et comment il peut être sûr d'être accompagné des partenaires autour pour venir prendre le relais. Le problème, il est là, c'est que présentement, c'est parfois et souvent, c'est une réponse pénale ou répressive. Moi, ce que je m'attends d'eux de plus en plus, c'est les amener vers une réponse sociale. Ils ne sont pas des psychologues, tout à fait. Ils ne sont pas des travailleurs sociaux, tout à fait. Mais comment on peut se faire aider par les partenaires autour? Vous seriez surpris, malgré l'uniforme, malgré l'aspect plus répressif, plus autoritaire, combien d'entre eux sont extrêmement, extrêmement humains en dedans, puis ils veulent trouver une solution. Je fais une petite parenthèse par rapport au, au phénomène des mouvements sociaux au niveau des carrés rouges dans les années 2012. Si vous voyez le nombre de tensions que les policiers vivaient à la maison avec leurs propres enfants ou leurs frères ou leurs cousins, les chicanes de famille à Noël, là, c'est des membres, tu as raison, c'est des membres de la société aussi, peut-être qu'ils s'adressent en étant à l'extérieur, mais veut pas, à cause des communications, des médias sociaux, de l'activité rapide des communications, ils vont se coller à la population, ils n'ont plus le choix.
Merci beaucoup, beaucoup, Bernard Saint-Jacques. Merci, Fadi Daguerre. Et je lève mon verre à l'absence complète de langue de bois qui m'a vraiment pris par surprise.
Vous avez aimé ce balado? Découvrez-en plus sur urbania.ca.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.